Alors, je vous invite à prendre vos Bibles, à tourner en Éphésiens, chapitre 4. En fait, on a regardé, ça fait déjà un certain temps, ce qui est la marche digne, et en humilité, ensuite en douceur, ensuite en patience, ensuite en amour, ensuite en paix. On a parlé des fondamentaux de l'unité du corps, un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et les pères et tous. Et puis à partir du verset 7, on a la description dans les Écritures de la diversité du corps, avec la grâce qui est donnée à chacun, et puis les dons d'hommes au verset 11, et dans le but de perfectionner les saints, et avec tous les objectifs de ce perfectionnement et la croissance du corps qui sont mentionnés dans les versets 11 à 16, c'est ce que nous allons regarder ce matin. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Prions. Notre Père, tu nous laisses ce texte ce matin qui est d'une telle richesse et profondeur que je pense qu'on prendra toute notre vie pour le comprendre, le méditer et le mettre en pratique. Mais nous te demandons, Seigneur, que nous puissions aller à l'essentiel ce matin et discerner ce que tu as pour nous dans notre assemblée, afin de ne pas être des auditeurs oublieux. Seigneur Jésus, je voudrais te demander que ta grâce soit sur nous, afin que ton serviteur soit caché par la croix du calvaire et que ton nom soit glorifié ce matin. Que chacun de nous, nous puissions avoir des cœurs purifiés, transformés à l'image de Jésus-Christ. Et aussi le désir de réaliser que nous sommes dans un plan qui n'est pas le nôtre, qui est celui que Dieu a souverainement voulu depuis toute éternité, comme un sage architecte, l'Église. Seigneur, donne-nous ce matin d'avoir peut-être les écailles de nos yeux qui tombent et de réaliser l'importance de l'Église, l'importance de ton plan et de nous y soumettre chacun joyeusement afin de te servir avec efficacité pour glorifier ton nom au sein de notre assemblée. Alors nous humilions devant toi pour te demander de parler à nos cœurs et que nous puissions faire silence. Ton serviteur écoute, parle Seigneur. Nous te demandons pour chacun de nous ce matin. Au nom de Christ. Amen. Savez-vous que Dieu a un plan qui ne laisse rien au hasard et il a décidé de bâtir son église, je bâtirai mon église. Et dans les Écritures, l'église est souvent comparée à un corps. La Bible dit, vous avez été baptisés en un seul esprit pour former un seul corps. L'idée ici, c'est de la nouvelle naissance, on est baptisé, c'est une action, un événement ponctuel, une seule fois dans la vie, et la conséquence, c'est que Dieu nous immerge dans un corps qui est son Église. La Bible aussi compare l'Église à un édifice, et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Dans le passage que nous avons lu ce matin, du verset 11 au verset 16, d'ailleurs nous avions vu seulement le verset 12, j'avais été plus loin que le verset 11, dont on va rattraper ce matin. Mais il est question ici d'un assemblage extraordinaire qu'est l'Église, avec une croissance que Dieu communique à chacun de ses membres. En fait, Dieu veut que son Église grandisse et se développe. C'est dans le plan de Dieu qu'il y ait une croissance dans son Église. En fait, s'il y a vie, il y a croissance. Un enfant grandit, une église grandit et porte du fruit. Et on va dire clairement ce matin que la croissance dépend de la croissance individuelle de chacun d'entre nous. Plus nous grandissons individuellement, plus nous participons à la croissance de ce corps. Maintenant, Dieu seul rend ce corps harmonieux. Et Dieu désire que chaque membre grandisse en harmonie dans le corps. Il serait horrible de voir un enfant naître et tout d'un coup d'avoir un pied qui se développe deux fois plus vite que l'autre pied, ou une main deux fois plus vite que l'autre main, et ainsi de suite. Et ainsi, avoir un corps qui soit complètement handicapé par une surcroissance et un manque de croissance dans d'autres membres. Bien sûr, c'est l'œuvre de Christ dans l'Église et l'illustration a ses limites. Mais l'Église est comparée à un corps. Cela veut dire que la vraie croissance dépend de tous et chacun, dans la mesure où nous grandissons normalement, et je dirais tous ensemble, le corps grandit, et c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que notre Église grandisse à sa gloire, porte du fruit et du fruit qui demeure. Chacun de nous doit donc veiller à sa croissance, à sa vie avec le Seigneur. Nous avons la responsabilité de nous tenir devant Dieu, de rester attachés à Dieu et de grandir dans le Seigneur Jésus-Christ et de demeurer en lui afin que notre vie porte du fruit et du fruit qui demeure et du fruit à tous égards et en abondance. Dans ce plan qui est le plan de Dieu souverain, éternel, il est question de l'Église, il est question de son perfectionnement et il est question de sa croissance. Est-ce que nous réalisons que ce n'est pas un hasard que nous sommes dans une Église? Est-ce que nous réalisons que Dieu a un plan bien particulier du fait que nous soyons dans une Église? On peut parler de l'Église universelle qui est la composition de tous les êtres humains nés de nouveau, croyants, nés en Christ par le Saint-Esprit, qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Ça, c'est la nouvelle naissance, c'est la conversion, c'est la vie d'en haut qui vient dans le cœur d'une personne par la parole de Christ et par son esprit, la personne est régénérée. C'est dans le plan de Dieu que le Christ glorifie, que l'Église glorifie son Seigneur et Sauveur. Et il est dans le plan de Dieu que chacun de nous, nous puissions réaliser ce qu'est ce plan. Voulez-vous vraiment, avec moi ce matin, prendre conscience que vous êtes dans le plan de Dieu si vous faites partie d'une église? Mais quel est votre rôle? Est-ce que vous faites partie de l'église dans le sens que vous participez à sa croissance? Parce qu'il est dans le plan de Dieu que l'église croisse et grandisse en foi et en nombre. Est-ce que nous faisons vraiment partie de ces croyants qui participent à la croissance de Dieu? En fait, est-ce que c'est optionnel? La question est à se poser ce matin. Est-ce qu'il est optionnel de penser que je suis un croyant qui ne pourrait pas ne pas faire grandir l'Église ou qui ne grandirait pas tout simplement? En fait, nous avons eu des partages ce matin et le but des partages, c'est de glorifier le Seigneur et de voir ce que le Seigneur fait dans nos vies. Nous louons le Seigneur et nos cœurs s'ouvrent à Dieu et nous chantons les louanges de Dieu parce que la vie est en nous. Et nous participons à la vie de l'Église, tous et chacun, et à sa croissance, à son édification, et ainsi nous glorifions le Seigneur Jésus-Christ. Ici, l'apôtre Paul, inspiré par Dieu, après avoir parlé du don de Dieu et de Christ envers chacun de ses enfants, le don de la grâce, le salut, les dons spirituels qu'il nous a donnés, et les talents sanctifiés, c'est la diversité, et on a déjà parlé de l'importance dans l'Église de trouver non seulement l'unité, mais aussi la diversité. On ne doit pas regarder uniquement à l'université au détriment de la diversité, on ne doit pas regarder simplement la diversité au détriment de l'unité. L'Église doit chercher toujours un équilibre, unité, diversité, diversité, unité. Et pour cela, Dieu a fait des dons, mais c'est extraordinaire. Dans différents passages de la Bible, en Corinthiens et dans d'autres passages, on a des dons spirituels qui sont nombreux, et le but de ce matin n'est pas de les énumérer, mais en Corinthiens 12, versets 1 à 11, on a une liste des dons, et je vous invite à regarder cela. Mais ici, il est question des dons d'hommes. Dieu, et on a déjà regardé cela en détail, du verset 8 à 10, on a expliqué ce que ça voulait dire, les cadeaux de Dieu, des dons d'hommes à l'Église. Dieu donne des hommes. Et l'apôtre Paul commence par le don d'apôtre, c'est un don d'homme. Il y a des dons spirituels, il y a des dons d'hommes que Dieu donne à son Église. Qu'est-ce que c'est qu'un apôtre? En fait, ce sont ceux qui ont cru et vu Christ ressuscité. Ce sont des hommes qui ont été appelés directement et personnellement par le Seigneur. Leur ministère est très varié. On lit dans le Nouveau Testament que les apôtres, ils évangélisaient, ils fondaient des églises, organisaient les églises, ils posaient le fondement de l'église, la sainte doctrine, ils disciplinaient l'église et ils opéraient des miracles qui authentifiaient le message. Dans ce sens-là, on peut dire qu'il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui dans le sens de ces apôtres qui ont fondé l'église de Jésus-Christ. Il y a aussi les prophètes. Ici, il est question des prophètes du Nouveau Testament, mais on sait déjà que dans l'Ancien Testament, le prophète est un porte-parole de Dieu. On voit essentiellement dans le Nouveau Testament que le prophète a un ministère d'exhortation. Il est chargé de communiquer la pensée et la volonté de Dieu, révélé par le Saint-Esprit. Un ministère d'autant plus important que les Écritures n'avaient pas été encore écrites. Et donc, les disciples qui se réunissaient, la première génération, n'avaient pas un livre à ouvrir comme nous, tous les dimanches matins et tous les jours, n'est-ce pas, dans notre culte personnel ou ensemble, dans les études bibliques, ils n'avaient pas le Nouveau Testament écrit. Et donc, les prophètes se levaient et proclamaient, en quelque sorte, inspirés par Dieu, la parole de Dieu, et donner une orientation, une exhortation et un discernement particulier dans les temps aussi que les croyants vivaient. Dans ce sens-là, et si on garde le contexte de l'Épître aux Éphésiens, il suffit de regarder en Éphésiens chapitre 2, verset 20, il est écrit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » Dans ce sens-là, il n'y a plus d'apôtres et de prophètes, puisqu'ils représentent le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. La pierre angulaire est souvent confondue avec la pierre de voûte ou la clé de voûte. La pierre angulaire était la première pierre qui était posée sur un terrain qui donnait l'orientation et finalement le périmètre de base de la fondation sur laquelle allait être bâtie la maison. Ainsi, Jésus-Christ étant la pierre angulaire, c'est lui qui a donné l'orientation et c'est Jésus-Christ qui a commencé à bâtir son église sur la base de l'enseignement des apôtres et des prophètes étant la fondation. Et depuis ce temps-là, l'Église se bâtit pierre sur pierre avec les croyants qui forment des pierres vivantes et édifient cet édifice à la gloire de Dieu. L'évangéliste, c'est un ministère plutôt itinérant ou missionnaire fondateur de nouvelles œuvres, des endroits où l'Évangile particulièrement n'avait jamais encore été proclamé. Et puis on a le ministère de pasteur et docteur. Alors évidemment, je dois dire ce matin qu'on pourrait prendre beaucoup de temps pour regarder chaque mot, n'est-ce pas, ce qu'est l'apôtre, apostolos, l'envoyé, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et docteur. Mais je voudrais aller un petit peu plus vite ce matin. Il y a le pasteur et docteur, dépendamment de l'exégèse grecque qu'on fait de ce passage. On peut parler de pasteur, trait d'union, docteur. Un pasteur est celui qui prend soin des brebis, le docteur c'est celui qui enseigne la parole, c'est vrai qu'un pasteur enseigne et un enseignant doit aussi apprendre à paître les brebis. Certains font la distinction entre pasteur et docteur, un ministère plutôt pastoral. Il y a trois mots grecs pour le ministère pastoral, l'évêque, l'ancien, pasteur et docteur qui est plutôt l'enseignant. Des fois ils sont confondus, dépendamment de l'exégèse grecque ici que vous allez faire peut-être. Vous verrez pasteur, docteur ou pasteur et docteur. Et donc, il y a certains commentateurs qui différencient le ministère de pasteur et docteur, mais il est certain que celui qui aspire à la charge d'évêque désire une œuvre excellente, mais il doit être un enseignant, nous dit l'apôtre Paul pour les qualifications en Timothée d'un évêque. Alors Dieu a fait ses dons d'hommes et on a déjà regardé en détail que le but c'est le perfectionnement, c'est l'idée de compléter, d'équiper les saints en vue de l'œuvre du ministère, c'est-à-dire tout ministère spirituel. L'Église a un ministère au travers de chacun de ses membres, pas simplement au travers d'une équipe pastorale ou des anciens, mais au travers de ses membres. Et ainsi, l'Église est composée de membres qui sont des pierres vivantes et pas des pierres ou des membres passifs qui reçoivent sans donner. on est appelé à sauver pour servir, et Dieu nous perfectionne en vue de l'œuvre du ministère. Ici, le mot grec « œuvre », c'est le mot « ergon », c'est un travail. Autrement dit, le croyant est appelé à travailler pour son Seigneur. Et en vue du ministère, et le ministère est très varié, l'édification du corps, dans la mesure où nous servons, nous bâtissons l'Église, nous nous édifions les uns les autres. Le croyant qui est en communion avec son Seigneur édifie le corps, parce qu'il édifie ses frères et ses sœurs. Nous pouvons venir à l'Église en pensant, qu'est-ce que je vais recevoir ce matin, ou en visitant les frères et sœurs, ou en étant en communion les uns envers les autres, ou nous pouvons dire, qu'est-ce que je vais apporter aux autres ? Qu'est-ce que Dieu me communique pour apporter à l'Église ? Qu'est-ce que fait comme une partie de ma vie va pouvoir être une bénédiction pour l'Église et bien sûr pour le Seigneur Jésus-Christ ? Bâtir le corps de Christ, c'est la volonté de Dieu pour chacun de nous, et nul ne vit que pour lui-même, dit la Bible. Autrement dit, ce que nous sommes transmet quelque chose dans l'Église. Et si nous sommes vivants, nous transmettons la vie, nous grandissons, nous édifions, et tout en servant le Seigneur Jésus-Christ. Alors ma présentation est simple ce matin, mais est-ce que nous réalisons l'importance d'être un membre actif dans le corps de Christ? Dieu fait des dons spirituels, des dons d'hommes pour équiper l'Église, mais ma responsabilité, c'est d'abord de me laisser équiper. Inutile de vous dire ce matin que qui que vous soyez ici, qui avez un métier, vous avez peut-être étudié pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans, peut-être plus, ça a pris du temps. Et Dieu aussi veut vous former. Et laissez-vous former par Dieu. C'est la plus belle chose qui puisse vous arriver et nous arriver. Dieu veut nous équiper, nous instruire de sa parole, nous aider de façon pratique à mettre la parole en pratique et ainsi être des serviteurs utiles entre ses mains qui glorifient Dieu. Parce que nous voyons l'Église se bâtir et grandir sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ici, il y a triple but du perfectionnement des saints. Non seulement l'œuvre du ministère, ça c'est l'objectif, mais il y a trois buts à atteindre, c'est que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Certainement que nous avons besoin d'apprendre à être unis dans la diversité des dons spirituels, dans la diversité des dons d'hommes. Le Seigneur veut nous appeler à vivre l'unité de la foi. La foi n'est pas statique. Je dirais que notre foi doit être dynamique, grandir, s'approfondir, tout en recherchant la volonté de Dieu. Et la connaissance de Christ, elle est bien plus pratique que théorique. Il y a des gens, et j'ai rencontré un jour, alors que moi-même j'étais à l'école biblique, un ancien camarade de classe où j'étais avant, au petit séminaire de Castres. Et il était au séminaire maintenant pour être prêtre. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il étudiait. Alors il m'a donné un petit peu son programme d'études. Et j'étais pas tout à fait surpris, je dois dire, de voir qu'en fait, ses études, ça avait affaire à beaucoup de traditions et de philosophie. Mais malheureusement, dans son cas, en tout cas, si vous me permettez de dire ça, c'était pas une étude de la Bible et de la connaissance de Jésus-Christ lui-même. La connaissance de Jésus-Christ doit nous amener à des choses pratiques dans notre vie. Notre foi repose sur une personne, Jésus-Christ qui est vivant, dont notre foi ne peut pas stagner. Nous sommes appelés à vivre par la foi, mais notre foi augmente d'autant plus que nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que notre foi est centrée essentiellement sur la personne de Dieu et de Jésus-Christ ? Nous savons, nous passons peut-être beaucoup de temps à étudier des choses sur Dieu ou des choses de la vie spirituelle, mais est-ce que nous étudions Dieu dans le sens que nous l'expérimentons nous-mêmes à chaque jour pour grandir dans notre foi ? Dieu nous appelle à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu. Christ nous unit, Christ ne divise jamais. Christ a pour but d'unir ses enfants parce qu'il est celui qui est notre Sauveur, notre Seigneur. Et si nous sommes chacun attachés à Christ et à sa connaissance, notre foi va augmenter et nous serons d'autant plus unis parce que nous serons toujours dans la connaissance du Fils de Dieu. Quelle est la mesure de notre connaissance ? Alors, la mesure que Dieu met devant nous comme défi, c'est l'état d'homme fait, c'est la maturité. Les trois résultats du perfectionnement des saints dans leur caractère, c'est non seulement grandir dans la foi pour vivre l'unité, mais aussi mûrir. Il n'y a aucun parent qui souhaite voir un enfant qui ne grandit pas, ni physiquement, ni intellectuellement, ni psychologiquement. Dieu le Père veut que nous, ses enfants, nous puissions être des hommes et des femmes mûrs. Qu'est-ce que cela veut dire ? On peut comparer certainement ce qui est un homme mûr en parallèle avec ce qui est un enfant, pour peut-être établir un contraste et mieux comprendre ce que c'est. Mais j'aimerais vous lire un premier passage qui se trouve en Hébreux, chapitre 5, et versets 11 à 14. Je vous le lis si vous voulez, ou bien tournez dans vos Bibles, Hébreux 5, versets 11 à 14. « Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. » Parfois, le croyant peut devenir un peu anesthésié par les soucis de la vie, ou je ne sais pas si on peut appeler d'Alzheimer spirituel, mais il est dangereux parfois de s'endormir, même peut-être sans se rendre compte, et d'être lent à comprendre les choses de Dieu, ou d'oublier les choses essentielles. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venu avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. En tant que père de famille et mère de famille, nous avons vu 6 enfants grandir à la maison. Et nous savons qu'à un moment donné, nous devons passer du lait maternel et au solide, et que ça fait partie de la croissance de l'enfant. L'enfant qui grandit change sa nourriture. Et nous voyons que la croissance est liée à la nourriture, et la façon avec laquelle l'enfant se nourrit détermine sa croissance. Ce que nous mangeons détermine beaucoup de choses dans notre être physique. Et ce dont nous nourrissons spirituellement, évidemment, va avoir un impact dans notre vie spirituelle. Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Je voudrais juste illustrer cela. Peut-être nouvellement converti, on a tendance à ouvrir la Bible un peu partout, n'est-ce pas, et regarder ce qui pourrait bien nous toucher. On est plutôt en train de lire les psaumes, n'est-ce pas, qui touchent vraiment à la vie du cœur. Et on se lance difficilement dans l'épître aux Hébreux ou l'exégèse de l'épître aux Romains avec tout le plan de Dieu, etc. Jusqu'à ce qu'on découvre que c'est bien mieux d'étudier la Bible dans son contexte et d'étudier tout un livre, pas simplement prendre des passages et après des années être toujours en train de lire les mêmes passages, les mêmes livres ou les mêmes paragraphes et ne pas essayer de connaître tout le conseil de Dieu et lire la Bible en entier et de lire tout un livre en l'étudiant. Et plus nous nous nourrissons de la parole, plus nous grandissons et plus nous sommes capables aussi d'aider les autres. La mesure ici de la stature parfaite de Christ nous fait réfléchir. Christ, notre maître et sauveur, était parfait. Donc, lorsque la Bible dit ici, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, on ne peut jamais dire qu'on va être parfaitement mûr et parfait comme Jésus-Christ. Lui était le Fils de Dieu. Mais ici, je pense que c'est le défi de vouloir toujours croître. Vous savez, parfois on a tendance à juger un chrétien qui est dans l'épreuve, il est peut-être moins souriant par une épreuve de tentation, ou une épreuve de, même je dirais, d'épreuve oppression de l'adversaire, ou de difficultés de santé physique, etc. Mais peut-être Dieu est en train de faire une œuvre dans son cœur, qui est en train d'approfondir sa vie, une œuvre qui va être beaucoup plus éternelle que la superficialité d'une certaine vie légère qui paraît facile. Dieu, lui, sait exactement qui nous sommes. Il connaît les fibres les plus intimes de notre être. Et son désir, c'est de nous faire croître. Et par cela, il y a parfois, c'est vrai, des épreuves. Il y a parfois des tentations. Il y a parfois des difficultés. Mais au travers de cela, Dieu veut créer en nous un caractère mûr d'affronter les épreuves de la vie par la foi et de nous fixer les yeux sur Jésus-Christ pour traverser les épreuves par la foi. Dieu est un Père pour nous. Il vise à notre croissance. Voyons voir. Quels sont ceux qui ont des enfants ici? Levez la main. Alors les autres, ça viendra un jour peut-être. Hein? Ceci dit, vous avez vu vos enfants grandir. Vous avez eu toutes sortes d'ambitions pour eux. Parce que vous les avez chéris dès leur naissance. Et vous les avez blottis contre votre sein. Et vous les avez nourris. Et vous avez pris soin d'eux. Et dès le jeune âge, vous avez eu tout un plan pour eux. Ah, bien sûr, en tant que croyant, vous avez même prié. Vous avez dit, Seigneur, que ton salut vienne dans sa vie. Et vous avez prié pour le salut de son âme. Et si vous avez des enfants convertis, c'est un sujet de louange et de reconnaissance envers Dieu. Et c'est extraordinaire de voir les enfants, nos enfants, marcher dans le Seigneur. C'est la plus belle récompense d'une éducation chrétienne. Mais vous avez voulu qu'ils grandissent. Vous avez planifié pour eux et vous avez même prié, comme ma femme et moi peut-être, même avant qu'ils naissent, qu'ils se convertissent. Vous avez prié pour leur conjoint, vous avez prié pour leur vie future et leur carrière professionnelle. Et vous avez déjà mis votre enfant entre les mains du Seigneur parce que vous avez cru que Dieu allait faire une différence en eux. Mais au travers de l'âge de vos enfants, vous avez voulu qu'ils grandissent, non seulement dans la foi, mais intellectuellement, spirituellement, physiquement, mentalement, pour être des hommes et des femmes mûrs qui peuvent vraiment faire face à la vie et glorifier Dieu. Et Dieu a le même plan, d'autant plus pour nous, ses enfants, dans son Église. Vous ne pouvez pas dire, moi, je vis ma vie. Alors, notre frère parlerait d'égoïstos, c'est ça ? Samuel, dimanche dernier. Ça n'existe pas dans le grec, mais bon, il a fait une plaisanterie. Mais nul ne vit pour lui-même. Ce que nous vivons, ce que nous sommes jour et nuit, que ce soit visible ou invisible, ce n'est rien caché devant Dieu. Et nous faisons partie d'un corps. Mais la beauté du corps, c'est qu'il y a l'amour dans le corps. Et nous nous acceptons les autres, les uns les autres là où nous sommes. Nous nous édifions, nous faisons du bien. Parce que Dieu est amour et il met le lien de l'amour entre ces pierres vivantes comme un ciment qui consolide le bâtiment, l'édifice de Christ. Et ça fait partie du processus de Dieu pour grandir. Nous sommes transformés de gloire en gloire, nous sommes délivrés, nous sommes libérés et nous sommes capables de servir le Seigneur dans la mesure où nous recherchons à connaître le Christ et à croître dans sa grâce. Il y a aussi un autre aspect du but, du perfectionnement des saints. C'est ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Et là, je pense essentiellement que l'apôtre Paul parle de la tromperie des hommes, des païens, entre guillemets, de toute cette sorte de philosophie qui va de l'humanisme jusqu'au Nouvel Âge, toutes sortes de philosophies où on met l'homme au centre et Dieu... à côté, tandis que nous croyons à la théologie qui est de mettre Dieu et d'intégrer Dieu dans tous les aspects de notre vie. La théologie, c'est d'intégrer Dieu dans tous les aspects de notre vie, tant dans notre volonté, nos sentiments sur le plan émotionnel que sur le plan intellectuel. Et on peut être pleinement satisfait de mettre Dieu au centre de notre vie. Amen. Amen. C'est un petit peu mieux. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent. Les enfants ont du mal à avoir un esprit stable. Ce que Dieu veut, c'est non seulement l'unité, mais aussi la stabilité. Dieu veut des gens mûrs et stables. Un enfant est souvent instable. Vous le mettez à un endroit, il va bouger partout, beaucoup de difficultés à se concentrer. C'est normal, c'est un enfant. Et parfois, des parents mettent un fardeau énorme sur leurs enfants parce qu'ils créent des attentes chez l'enfant qu'ils ne sont pas capables, les enfants, de réaliser. Et c'est un manque de sagesse et de bon sens d'avoir des attentes trop élevées envers ses enfants et de ne pas comprendre qu'il y a un temps pour tout. Mais l'enfant est caractérisé souvent par un manque de concentration, beaucoup d'agitation, beaucoup d'influence ici et là, un peu à tout vent d'influence. Il se place jusqu'à ce qu'il se stabilise et devienne un homme avec des convictions et sache ce qu'il veut dans la vie. Donc ça prend un certain temps pour que le croyant se stabilise et devienne de bébé un homme mûr. Qu'est-ce qui caractérise le bébé spirituel ? On peut lire par exemple en 1 Timothée, je vous le lis, 4 verset 1, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Quelque part, Dieu veut créer chez l'enfant de Dieu une stabilité doctrinale. Il veut créer dans l'Église une stabilité doctrinale. Il y a des points dans la Bible où Dieu demande un moment d'avoir des convictions spirituelles fortes, et même je pense qu'il y a des convictions pour lesquelles on est prêt à mourir en tant qu'enfant de Dieu, que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est le sauveur des hommes. Dieu nous demande une certaine stabilité afin de ne pas nous laisser influencer par le vent de philosophie, etc., et dans le monde autant scientifique, philosophique, qu'humaniste, il y a beaucoup de courants qui passent. Et le chrétien est à contre-courant de beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ou observé ou lu la vie des saumons, mais le saumon est à contre-courant. Et il lutte pour remonter le courant. Et je pense que ça illustre un petit peu ce qu'est l'homme de Dieu. Il lutte à contre-courant. Mais la différence, c'est qu'il y a des saumons qui n'arrivent jamais et qui meurent avant d'arriver là où ils veulent aller. Parce qu'ils perdent les forces, ils sont épuisés. Et l'enfant de Dieu, à la différence du saumon, il peut avoir la force du Seigneur et remonter le courant, être à contre-courant, parce qu'il a la puissance du Saint-Esprit en lui. Alors ce qui différencie un bébé d'un homme fait, c'est sa nourriture. Spirituellement parlant, un homme fait est celui qui se nourrit de la parole, s'en instruit constamment. Et un tel homme ne peut pas être facilement ébranlé parce qu'il est sur un terrain solide qui est le terrain de la parole de Dieu. Moi, ça ne m'intéresse pas ce que vous pensez. Ce qui m'intéresse, c'est ce que dit la parole. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Bien sûr, je suis intéressé, et on doit être intéressé de tout ce que le monde pense, dans un sens. Mais ce qui doit nous intéresser, c'est ce que dit Dieu. Qu'est-ce que dit Dieu dans tel sujet? Est-ce qu'on va suivre Dieu ou est-ce qu'on va suivre les hommes? Est-ce qu'on va suivre un courant évangélique parce qu'il semble que... Non, qu'est-ce que dit la parole? Il est important d'être bien assis sur la doctrine de Christ. L'unité est liée à la connaissance du Fils de Dieu et à la sainte doctrine. Plus nous allons nous appuyer sur la doctrine de la Bible, plus nous allons être unis. Nous ne pouvons pas faire de compromis de la vérité si nous voulons être unis. Il y a ceux qui disent, oh, on peut être unis, de toute façon on est enfant de Dieu, peu importe ce que nous croyons. Non. L'œcuménisme n'est pas dans la parole de Dieu. L'unité, oui, c'est tout à fait différent. On est unis en Christ, mais on n'est pas unis par des mouvements, on est unis en Christ. Et notre rôle, c'est d'être unis à Christ et d'aimer tous les enfants de Dieu, bien sûr, et d'avoir de l'amour pour chacun, mais ne pas se laisser influencer par des courants, parfois de nouvelles doctrines, comme s'il pouvait y avoir des scoops bibliques tout d'un coup. Ça me frappe. Tout d'un coup, on lit quelque chose, franchement. Un jour, je vais vous donner une anecdote qui me vient à l'esprit, j'étais avec Alain Chouaquier, un cher frère évangéliste que j'aimais beaucoup, et il me disait, Michel, tu sais quelle est la définition d'un bon, d'un mauvais théologien? C'est celui qui complique tout ce qui est simple. Et d'un bon théologien, c'est celui qui simplifie tout ce qui est compliqué. Mais parfois, nous lisons des articles ou nous lisons des choses, mais c'est tellement compliqué, ça devient tellement intellectualisé, alors que la simplicité de Christ est toujours claire. Vous lisez les évangiles, c'est à la portée d'un enfant. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas profond. Mais la simplicité d'une telle profondeur que ça devrait nous stabiliser sur ce terrain de la parole. Moi, je désire être quelqu'un qui base sa vie, ses convictions, ses croyances sur la parole de Dieu. Je ne veux pas suivre des courants de pensée. Je veux savoir ce que dit Dieu. Et parfois, ça prend d'être à genoux, de prier, de jeûner et de demander, supplier Dieu de nous convaincre, mais de nous dire la vérité. Et plus nous allons nous asseoir sur Dieu et sur sa parole, plus l'Esprit de Dieu est prêt à nous enseigner. Parce que l'Esprit de Dieu est là dans son rôle de paraclète, celui qui est à côté pour nous enseigner. En fait, un bébé a des capacités très limitées. Sa force d'action est faible, limitée, dépendant des autres. L'homme fort, au contraire, mûr et stable, fidèle, constant. Et j'aimerais dire ceci, il finit ce qu'il entreprend. Vous savez comment, personnellement, excusez cette petite remarque, comment je regarde à la fidélité d'une personne? D'abord, je regarde à sa loyauté. Quelqu'un qui prend un engagement, est-ce qu'il est fidèle? Est-ce qu'il le prend par la force humaine ou par la force de Dieu? Quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui finit ce qu'il entreprend. Qui, par exemple, fait ce qu'il dit. L'homme est connu par ce qu'il dit, par sa parole. Vous avez remarqué des gens qui parlent et qui ne font pas ce qu'ils disent? Je ne sais pas vous, mais c'est frappant de voir qu'il n'y a pas de stabilité dans ce cas-là. Quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui s'engage et qui devient stable et ferme sur lequel on peut s'appuyer. C'est beau cela. Dieu cherche des hommes et des femmes sur lesquels il peut s'appuyer, sur lesquels il peut compter parce qu'ils ne sont pas des enfants ballottés à tout vent de sentiments ou de doctrines, mais attachés à Jésus-Christ. Vous êtes appelés, chacun ici, à être un homme et une femme de Dieu, à viser la connaissance de Christ, à la mesure de la stature de la personne de Christ. On ne peut jamais être satisfait dans un sens, parce qu'il y a toujours place à grandir, à être assoiffé de Dieu, à être mûr, à être stable dans le Seigneur. Verset 15, « Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croit-on à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Voilà la clé ici d'une vraie croissance, être attaché à celui qui est le chef, Christ. Qui c'est qui bâtit son Église ? C'est Jésus-Christ. Nous pourrons croître si nous sommes attachés à Christ, la tête du corps. Tout dépend de notre attachement envers le Seigneur. La Bible dit « Nous professons la vérité dans l'amour ». La vérité est toujours la vérité. Est-ce que vraiment nous sommes attachés à la vérité ? Je cherche une note que je voulais vous donner ce matin. Peut-être je la trouverai. Je vous invite à regarder Éphésiens chapitre 1, verset 1, chapitre 1, versets 21 et 22. Il est écrit à propos de Jésus-Christ qu'il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il a mis tout sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Est-ce que vraiment le Christ est notre chef ? Est-ce que vraiment nous nous soumettons au Seigneur Jésus-Christ ? Est-ce que nos choix dans nos vies sont liés à la personne de Jésus-Christ ? Est-ce que la façon avec laquelle nous exerçons un ministère ou nous nous employons à le servir dans l'Église est liée à la personne de Jésus-Christ ? J'aimerais qu'on puisse terminer en regardant le verset 16, si vous voulez bien. On va prendre quelques minutes encore pour regarder le verset 16. Il est écrit ici, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Alors, je voudrais, voilà, ça y est, j'ai trouvé, je voulais partir à partir de là, excusez. On a déjà dit que l'Église est comparée à un corps, à un édifice, une habitation. Le corps du croyant est devenu l'habitation de Dieu en esprit. Réalisons-nous, frères et sœurs, que le même esprit qui a créé les cieux et la terre, ce même esprit qui habite en nous, nous ne le méritons pas. C'est ça l'amour de Dieu, c'est de venir habiter, tabernacler. Vous savez le tabernacle dans l'Ancien Testament ? C'était magnifique, tout préfigurait la personne de Jésus-Christ, mais il y avait la Shekinah, la gloire de Dieu. Et le peuple d'Israël se levait, marchait dans la nuit, sous la lumière de cette gloire de Dieu, ou s'arrêtait quand la nuée s'arrêtait. Tout était lié à l'orientation, la direction de cette gloire de Dieu. Est-ce que nous faisons tout pour la gloire de Dieu ? Est-ce que le Saint-Esprit en nous nous dirige en toutes choses ? Est-ce que nous réalisons que notre corps ne nous appartient plus parce qu'il est l'habitation de Dieu en esprit ? Est-ce que nous sommes vraiment donnés au Seigneur tout notre être, corps, âme et esprit, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous et nous nous appartenons plus à nous-mêmes. C'est vrai que l'Église est diversifiée, mais c'est la création de Dieu. Ne soyons pas effrayés de la diversité. Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait toutes sortes d'églises évangéliques, dans la mesure où elles glorifient Dieu, parce que Dieu aime la diversité. Maintenant, il ne faut pas tomber dans le sectarisme ou dans... l'aveuglement ou des œillères, n'est-ce pas ? Il faut reconnaître l'ensemble du corps de Christ. Mais on peut garder des convictions bien précises dans certains domaines. Mais la diversité n'est pas une occasion de chute pour l'enfant de Dieu, dans la mesure où il y a l'équilibre en même temps et unité dans le Saint-Esprit. Dieu nous transforme. On est des êtres humains déchus. Quand la Bible dit « si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature », les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible dit en fait qu'on est une nouvelle création. C'est le chef-d'œuvre de Dieu. Il prend un être humain déchu. Vous avez déjà lu des histoires de femmes prostituées converties, de gens drogués convertis, de violeurs convertis, d'assassins convertis? Vous allez dire, c'est pas moi ça. Oui, mais dans notre nature, on est aussi déchus que ces gens-là. On serait capable même de faire des choses comme cela. Notre nature est entièrement déchue. Et Dieu nous a appelés de cette déchéance, cette perdition, de l'enfer, pour nous donner une vie nouvelle, pour être en route pour le ciel. Et c'est la toute beauté de Dieu. J'aimerais vous lire, donnez-moi quelques minutes s'il vous plaît pour terminer, j'aimerais vous lire ce que dit un commentateur, qui était l'ancien directeur de l'Institut biblique Emmaüs. Il a dit, à propos de ce passage, « Ainsi en est-il de tout organisme vivant. L'unité dynamique n'est pas l'uniformité, mais l'harmonie dans une diversité infiniment complexe. Si les membres du corps sont unis et interdépendants, chacun est différent de tous les autres et cependant inséparable d'eux. C'est la beauté de la famille. On est différent, mais on s'aime et on a besoin les uns des autres. Nul ne vit pour lui-même. Nul ne peut prétendre, j'ai pas besoin des autres. Peut-être que Dieu peut donner une grâce particulière à un frère, une sœur qui serait emprisonné, séparé dans un temps de persécution et devant être obligé d'être tout seul en prison, comme pasteur Wimbrand qui est resté 14 ans en prison et qui mémorisait la parole de Dieu pour s'édifier. Mais on a tous besoin les uns des autres. Un tison tiré du feu s'éteint rapidement. Qui coordonne l'ensemble? Ce verset-là m'a passionné. Je voudrais mais presque prendre juste ce verset. Mais c'est un passage tellement riche. Et on peut essayer de comprendre intellectuellement du verset 11 au verset 16 la croissance. Mais en résumé, ce que j'ai compris à un moment donné, on peut comprendre intellectuellement tout ce passage, le disséquer, comme qu'on peut comprendre le corps humain dans une certaine mesure et faire l'anatomie, quoique par exemple dans le cerveau, il y a un grand manque de connaissances encore pour la connaissance du cerveau, mais on ne peut pas toucher la vie. C'est pareil pour le corps de Christ. On peut intellectuellement comprendre comment Dieu fait les choses, mais ce qu'il fait, il le transmet par la vie. Est-ce que nous sommes en vie ce matin pour lui? Est-ce que nous sommes des chrétiens éveillés, remplis du Saint-Esprit, qui marchons humblement sous la houlette du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que nous comprenons que c'est le rôle de Jésus-Christ de coordonner l'Église? Bien sûr, il y a des dons d'hommes, mais si vous êtes dirigé par Dieu, c'est comme un puzzle, chaque morceau a sa place et le tableau est magnifique, c'est le chef-d'œuvre de Dieu et Dieu a une place bien précise pour vous. Vous ne pouvez pas être, j'ai dit ça récemment dans une rencontre, mais c'est vrai, Dieu ne veut pas qu'on soit des touristes, hein. Il n'y a pas de place pour les touristes dans le corps. Tiens, je me sens bien maintenant, et puis je vais faire mes petites affaires, mes vacances, je vais venir une fois tous les trois dimanches. Je ne dis pas que c'est votre cas, mais vous comprenez ce que je veux illustrer. Ce n'est pas tout à fait la vie du corps, cela. Si vous faites partie d'une famille, vous aimez, en tant que parents, vos enfants, vous restez unis au travers des années. Il y a peut-être différents aspects et séparations géographiques, mais il y a toujours le même attachement. Hortense dit ceci, Christ est le seul compétent pour mettre en valeur la contribution de chaque membre dans l'harmonie générale et assurer l'édification du corps entier dans l'amour. Croire en Christ, n'est-ce pas aussi lui faire confiance en sa qualité de chef et attendre de lui l'initiative, la direction et la coordination de l'œuvre? En tout cas, je pense que dans nos différentes activités d'église, on peut vraiment glorifier le Seigneur, parce que je dirais que d'année en année, et ça fait quand même des années maintenant que je suis pasteur, autant au Québec qu'ici, je peux dire que je suis surpris et merveillé de voir chaque année comment Dieu lui-même bâtit un programme d'église. Ce n'est pas nous, hein. C'est incroyable comment Dieu bâtit son église. Et ainsi, toute la gloire lui revient. J'aimerais terminer avec ce qui est écrit au verset 16 ici. Que tout le corps, bien corné, formant un solide assemblage, tire son accroissement. Selon la force qui convient à chacune de ses parties, s'édifie lui-même dans l'amour. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance. C'est Christ qui est le chef du corps. C'est lui qui fait l'ajustement, la coordination. C'est lui qui fait le lien. C'est lui qui le nourrit, qui l'approvisionne dans la mesure de chacun et où chacun grandit. C'est le travail de tout le corps lié à la tête de Christ, c'est le travail de chacun. Et je vais vous donner quelques vérités qui me semblent toutes simples, mais qu'on va proclamer pour terminer. Premièrement, le corps grandit si le corps est attaché à la tête. On parle de croissance maintenant. Le corps grandit si le corps est attaché à la tête. Es-tu attaché à la tête? Deuxième vérité, l'œuvre est coordonnée si le corps est attaché à la tête. Es-tu attaché à la tête? Troisième vérité, l'œuvre est liée ensemble, unie, si le corps est attaché à la tête. Es-tu attaché à la tête? Quatrième vérité, le corps est nourri si le corps est attaché à la tête. Es-tu attaché à la tête pour te nourrir? Cinquième vérité, la croissance du corps dépend de l'ensemble du corps, dans la mesure où chaque partie fonctionne et joue son rôle. J'ai donc une part, ma part. Le plan de Dieu est que chaque partie du corps soit vivifiée, renouvelée, fortifiée. Mais encore là, tout dépend de mon attachement. Es-tu attaché au corps de Christ? Est-ce que je laisse la vie de Christ se faire en moi? Est-ce que je réalise que je suis dans une équipe, dans l'Église? Sixième vérité, la croissance du corps édifie le corps. Quand le corps cesse de grandir, il n'y a plus de croissance interne, il n'y a plus de nouveaux membres, et l'Église n'est plus édifiée. Septième vérité, il n'y a pas de véritable édification sans amour. La vérité plus l'amour égale la croissance plus l'édification. On ne peut pas grandir sans s'édifier soi-même. Un corps ne peut pas grandir si les os ne se solidifient pas tout en grandissant. Sinon, l'os qui grandit ne pourrait pas supporter le corps. Vous comprenez l'image ici. En fait, maladroitement, certainement, j'ai voulu partager ce passage ce matin, qui est loin d'être un partage exhaustif, tellement on pourrait revenir sur chaque verset. Mais le défi est le suivant de la part de Dieu ce matin. Est-ce que je suis une pierre vivante? Est-ce que je fais partie de la croissance parce que Dieu le veut? Et la bonne nouvelle pour chacun de nous, c'est que Dieu nous appelle à faire partie d'un corps qui grandit, qui croit, parce que nous grandissons chacun. C'est merveilleux cela. Vous êtes une pierre vivante. Vous êtes un membre du corps de Christ. Et Dieu vous aime. Il vous nourrit. Il vous donne la vie. Pour cela, je dois accepter d'être perfectionné. Je dois accepter de travailler pour le Seigneur. Je dois accepter ma responsabilité d'édifier le corps. Je dois accepter de connaître Christ, d'être uni, de grandir, de mûrir, d'être bien assis sur la parole, d'être stable, et puis de laisser la vie en moi couler, afin que Christ porte du fruit et que l'Église reflète cette explosion de vie qu'on va voir au printemps, ça s'en vient, et que chacun de nous, on soit un parfum de bonne odeur pour Christ. Prions, s'il vous plaît. Ô Seigneur, nous avons vu certainement de façon très incomplète ce matin ton plan, le plan de l'Église et la croissance. Mais merci Seigneur de nous aider. Chacun de nous, nous avons besoin de grandir et nous te remercions de ce que tu veux le faire en nous. Nous te donnons gloire et louange au siècle des siècles. Amen.